Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de Wagmi Trends, et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où notre identité numérique transcende le physique pour s'ancrer dans le numérique, où liberté, sécurité et confidentialité redéfinissent le visage de l'être humain. C'est dans cet espace novateur de l'identité numérique que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Hervé Bonazzi, entrepreneur chevronné et CEO d'Archipel, pionnier de la confiance et de l'identité numérique à travers la technologie blockchain, ainsi que Candice Doge, directrice de l'identité numérique et directrice de la Business Unit Digital Trust and Services de DocaPost. Ensemble, nous allons décrypter comment l'identité numérique façonne un nouveau paradigme entre liberté, sécurité et confidentialité et redessine le nouveau visage de l'être humain dans le monde numérique. Pour m'accompagner et nous offrir une perspective plus concrète sur ce sujet et les défis qui l'accompagnent, Olivier Senot, directeur de l'innovation de DocaPost. Olivier, c'est à toi.
Merci Marine, bonjour Hervé. Et comme souvent dans ce podcast, nous recevons des ovnis, aujourd'hui consacrés à un homme qui a plus de start-up à son actif que de paires de chaussettes dans son tiroir. Hervé Bonazzi, c'est un peu le James Bond de la technologie blockchain. Avec son smoking numérique et son martini de données cryptées, il dirige Archipel avec la mission de sauver le monde. De sauver le monde du Far West numérique en luttant contre la fraude et le blanchiment d'argent. Et demain, de l'usurpation d'identité. Expert reconnu de la blockchain et des actifs numériques, et 5 start-up à ton actif, Hervé, nous écoutons ta vision de l'avenir de la blockchain.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et mieux en comprendre les enjeux, je vous propose un quiz sur l'identité numérique. Est-ce que vous êtes prêts ?
On est prêts.
On est prêts.
Première question, quel pourcentage de Français estiment qu'ils pourraient améliorer la protection de leurs données personnelles ? 20%, 45%, 35% ou 60%?
Moi, je 20%.
Dirais, moi, je dirais la moitié, près de la moitié, 45%.
45%. Bravo Hervé. Selon une enquête Okta Security et de Co-Marketing News, près de la moitié des Français sont conscients de la nécessité de mieux sécuriser leurs données en ligne. Quelque chose à ajouter Hervé?
Ça me paraît très encourageant de penser qu'enfin, les gens ont compris que leurs données en ligne sont importantes, sont en danger et qu'il faut les protéger.
On continue avec la deuxième question. Quel pourcentage d'entreprises a déclaré avoir été victime d'au moins une fraude en 2022? 25%, 40%, 70% ou 57%?
Alors ça, c'est un chiffre que nous, on a, qu'on utilise d'ailleurs dans nos présentations commerciales pour expliquer la fraude des entreprises. On dit toujours 2/3 des entreprises. Je crois que c'est ça. Donc tes chiffres, c'est quoi ?
57%.
Je dirais, allez, 57 ou 70. Mon cœur balance, quoi. En tout cas, entre les deux, quoi.
Olivier ?
On connaît ce chiffre aussi, hélas, en termes de lutte contre la fraude. Donc, effectivement, on est aux 2/3, peut-être un peu moins, 60% ou 57%.
57%, c'est ça.
Tu le disais.
Absolument. Selon une enquête d'Alliance Red, plus de la moitié des entreprises ont été touchées par la fraude en 2022. C'est énorme. Continuons. Troisième question. Combien de personnes en France sont victimes d'usurpation d'identité chaque année ? Entre 2000 et 2005, entre 1000 et 2000, moins de 1000 ou plus de 3000 ?
Je crois que c'est 2000 ou 3000, j'aurais dit entre les deux. Donc là, allez, 2005.
2005, Olivier ?
Alors là, en 2023, on va exploser les chiffres. Donc on va être largement au-delà de 3000 en 2023. On est déjà à plus de 3000 à aujourd'hui.
Plus de 3000 à aujourd'hui. Donc entre 2000 et 2005, selon la Banque de France et une tribune publiée sur Allianz.fr, entre 2000 et 2500 personnes en France sont victimes d'usurpation d'identité chaque année. Maintenant que nous sommes au point sur les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de l'identité numérique et de son impact sur leur quotidien. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur ce sujet.
Est-ce que tu fais attention à ton identité numérique ?
Pas trop, en réalité, mais j'ai bien conscience que je devrais m'en occuper beaucoup plus et m'en préoccuper.
Oui, je pense que j'y fais attention, dans le sens où c'est des données, depuis qu'on est petit, on nous dit que c'est des données qui peuvent être divulguées à tout moment, qui peuvent être visibles par n'importe qui, par nos futurs recruteurs, etc. Je pense qu'on est pas mal sensibilisés à ça, nous, notre génération, plus que celle, par exemple, de nos parents, qui n'ont pas grandi avec ça.
C'est simplement, enfin, j'ai juste séparé vie pro et vie perso, quoi.
C'est tout ?
C'est juste ça.
Et est-ce que tu as déjà connu une usurpation d'identité en ligne ?
Jamais.
Alors non, je n'ai pas encore... pas encore connu. D'ailleurs, le fait que je dise encore, c'est assez révélateur du fait que c'est quelque chose qui, je pense, est assez récurrent. Et dans mon entourage, c'est déjà arrivé. Et moi, personnellement, non.
J'ai eu des alertes, mais sans que ce soit pour autant bien aggravé, quoi.
Penses-tu que les entreprises protègent bien ton identité numérique ?
Alors, je pense que les entreprises vont bien s'en occuper si elles sont confrontées à un problème. Elles vont plutôt avoir le côté d'aller éteindre l'incendie plutôt qu'avant qu'il ne se déclenche.
Je ne pense pas que les entreprises protègent bien mon identité numérique et je serais ravie d'avoir l'avis d'experts là-dessus. Non, moi je pense que c'est quelque chose qui est devenu totalement monétisé, commercialisé, en acceptant les cookies ou autres conditions générales d'utilisation. On les vend d'une certaine manière.
La boîte pour laquelle je bosse, ouais, éventuellement un peu à l'excès, quoi.
Alors, vos réactions ? Hervé ?
Très intéressant. C'est bien que les jeunes générations commencent à prendre conscience. Et ça, on s'en rend compte et ça ressort dans ce micro-trottoir. C'est heureux. Et que les entreprises aussi. Mais en fait, je pense que personne ne sait comment faire en fait, devant ce problème et quels outils ils ont à leur disposition. Et c'est là qu'on va essayer d'y répondre, notamment avec l'identité décentralisée.
Ok. Olivier, une réaction ?
On voit bien que là aussi, il y a un petit manque d'acculturation. Il y a une différence entre identité numérique et cookies, entre données personnelles et identité numérique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on ne peut pas, par exemple, se servir de cookies pour usurper l'identité, alors qu'on a d'autres techniques pour faire de l'usurpation d'identité. Donc, c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a un effort pédagogique à faire pour expliquer et les données personnelles et l'identité, quelles sont les différences entre les deux.
Eh bien, rentrons dans la pédagogie. Hervé, peux-tu nous expliquer comment Archipel contribue à renforcer la confiance numérique en Europe, et notamment en matière d'identité numérique ?
Oui, alors chez Archipel, nous fournissons l'infrastructure et les services d'identité décentralisée qui permettent à toute organisation de déployer et d'utiliser facilement des portefeuilles d'identité numérique basés sur blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité décentralisée ? On l'appelle aussi « self-sovereign identity » en anglais. C'est plus parlant. Et selon moi, c'est clairement l'avenir des identités numériques. Cela permet de remettre le contrôle total des données d'identité aux mains des individus plutôt qu'aux organisations.
Ok, donc concrètement, ça donne quoi ?
Alors concrètement, les utilisateurs disposent d'un portefeuille numérique, similaire à un portefeuille physique, où ils peuvent contrôler les éléments de leur identité et surtout contrôler avec qui et comment ils vont les partager. Et cela sans intermédiaire central qui contrôlerait ces données ou qui verrait passer ces données. Les utilisateurs peuvent donc prouver leur identité ou d'autres données personnelles, par exemple leur qualification, leur diplôme, ou l'authenticité de certains documents, sans avoir finalement à exposer toutes les informations ou à transmettre le document dans son ensemble. Donc c'est un changement de paradigme par rapport au système centralisé actuel où toutes les données sont stockées sur des serveurs d'entreprise ou de gouvernement, ce qui les rend finalement vulnérables à des violations de données ou au pire à de la surveillance de masse indésirable par des gouvernements qui seraient totalitaires. Alors, ce qui n'est pas le cas en Europe, mais on sait qu'en Chine, par exemple, c'est totalement le cas. Alors, en Europe, du coup, il va y avoir l'adoption prochaine du règlement IDAS 2. C'est un règlement sur l'identité numérique et la confiance numérique. Et grâce à cela, l'identité décentralisée va contribuer à créer un écosystème numérique plus sûr en Europe, où les transactions et les interactions vont réellement être sécurisées et privées. Cela pourra aussi faciliter l'interopérabilité de la vérification d'identité à travers les frontières, encourager l'inclusion numérique et supporter un marché unique numérique en Europe en fournissant une méthode d'authentification uniforme et reconnue dans tous les États membres de l'Union.
Et alors, comment est-ce que tu envisages l'avenir de l'identité numérique décentralisée ? C'est-à-dire, quel impact cela pourrait-il avoir sur la gestion des données personnelles, selon toi ?
Alors, déjà, il faut réfléchir à aujourd'hui. Chaque fois que vous vous inscrivez à une nouvelle application, un nouveau service en ligne, on vous demande de fournir un tas d'informations personnelles. Votre nom, prénom, adresse e-mail, adresse, date de naissance, mais parfois aussi d'uploader certains documents vous concernant. Et ça peut être des documents officiels que vous allez finalement transmettre. Qui sait ce qui arrive à ces données, à ces documents, une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Transmettre » ? Elles sont protégées, a priori, par le RGPD, mais bon, parfois, elles pourraient être vendues à des annonceurs ou carrément fuitées par, suite à une violation de données et, in fine, potentiellement être utilisées pour une usurpation de votre identité. La solution, avec l'identité décentralisée, vous allez devenir le seul propriétaire de votre identité numérique dans votre portefeuille numérique. Vous décidez exactement quelles informations vous partagez et avec qui, et dans quelles circonstances. Et avec des principes comme la divulgation sélective, ou même la technologie de preuve à divulgation nulle, les fameux ZKP, vous allez pouvoir prouver quelque chose à propos de vous, sans même le révéler, finalement.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ?
Alors, un exemple concret, pensez à ce piratage, en fait, cette année, d'une agence de voyage assez connue, où des milliers de passeports ont été divulgués sur Internet. Avec l'identité décentralisée, l'agence de voyage pourrait juste vous demander la preuve que vous disposez d'un passeport en cours de validité ou du visa nécessaire à ce voyage. Et vous allez juste, avec votre wallet, transférer une preuve cryptographique, mais vous n'allez pas transférer votre passeport. Et du coup, l'agence de voyage n'a pas besoin de garder votre passeport sur ses serveurs informatiques. Cela réduit considérablement le risque de vol d'identité et de fraude, qu'il y a finalement moins de copies de vos données en ligne sur plein de serveurs. Donc l'avenir de l'identité décentralisée semble très prometteur, les cas d'usage sont infinis. On peut citer la preuve de majorité, les diplômes, les données de santé, les qualifications professionnelles et des relations de conformité bancaire, de conformité client-fournisseur et donc de données d'entreprise aussi, pas seulement de données d'individus, mais de données d'entreprise. Donc toutes ces interactions entre entreprises, individus ou même objets connectés nécessitent des données authentiques et vérifiables. Et finalement, ces données pourront être vérifiées et vérifiables grâce à l'identité décentralisée, grâce à la blockchain. Donc, on peut anticiper un monde numérique plus sûr où les utilisateurs vont pouvoir interagir en ligne avec plus de confiance, sans risque de fraude. L'identité décentralisée permet enfin de démocratiser l'accès aux services en ligne en permettant à ceux qui n'ont pas d'identité gouvernementale, c'est le cas dans certains pays d'Afrique, par exemple, où finalement il n'y a pas même d'identité, de preuve d'identité physique, de carte d'identité. Avec l'identité décentralisée, on va pouvoir délivrer plus facilement des identités finalement aux citoyens dans certaines régions du monde où les citoyens n'ont aucun moyen de prouver qui ils sont. Ça va permettre l'inclusion bancaire, par exemple, l'accès aux services basiques bancaires pour ces populations-là.
Hervé, tu es très impliqué dans la blockchain et les cryptoactifs. Explique-nous comment ces technologies peuvent servir à sécuriser notre identité numérique.
Oui, alors pour rappel, la blockchain est simplement un registre distribué, open source, transparent, immuable et résistant à la falsification. Donc la technologie blockchain permet donc de créer des écosystèmes de confiance qui ne dépendent pas d'une seule autorité centrale. Donc lorsque l'on pense à notre identité numérique, avoir ce cadre de confiance décentralisé semble vraiment important afin qu'aucune organisation, aucune grande entreprise du numérique ou même aucun gouvernement ne puisse utiliser nos données sans notre accord. Donc la décentralisation de l'infrastructure, par la décentralisation de la blockchain, assure la sécurité, la résilience du système, mais c'est aussi la décentralisation de la gouvernance sur plusieurs acteurs qui assure finalement qu'aucune utilisation hégémonique de mes données pour des fins de traçage ou de discrimination sans mon accord serait possible.
Et donc, en intégrant la technologie blockchain, ça donne quoi ?
Alors, en intégrant la technologie blockchain, finalement, dans l'écosystème d'identité numérique, on va pouvoir créer un environnement où les identités sont non seulement sécurisées et privées, mais également où les individus ont une totale souveraineté, un total contrôle de leur propre identité et de leurs données. Cela pourrait vraiment révolutionner la façon dont nous accédons aux services, dont nous interagissons en ligne et la manière avec laquelle nous allons protéger demain notre vie privée.
Très intéressant. Alors, ce podcast a pour vocation et d'acculturer et de donner des conseils pratiques à nos auditeurs. Pour des décisionnaires de TPE, PME ou ETI, quelles sont les premières étapes pour intégrer une solution d'identité numérique sécurisée dans leur entreprise ?
Oui, alors avant tout, il est nécessaire de comprendre quel processus métier nécessite plus de sécurité et quel type de données on a besoin de protéger. Ensuite, il semble important de s'éduquer sur ces nouvelles technologies, sur l'impact de la réglementation IDAS 2 que j'ai citée précédemment, et aussi comprendre les menaces potentielles et les meilleures pratiques en termes de sécurité informatique. Enfin, on va sélectionner une solution d'identité numérique qui correspond à la taille et aux besoins de l'entreprise, en tenant compte finalement de la facilité d'intégration et de son évolutivité.
Et maintenant, si on se met du point de vue des collaborateurs des entreprises, comment peuvent-ils s'assurer que leur identité numérique est sécurisée au travail ? Et y a-t-il des bonnes pratiques à suivre ?
Oui, alors aujourd'hui, en l'absence de réelles solutions d'identité numérique professionnelle répandues dans toutes les entreprises, en fait, les règles de prudence habituelles s'appliquent sur les mots de passe forts, la double authentification, la vigilance avec l'email contre le phishing, qui reste la première source de fraude, hein, la mise à jour des logiciels et des appareils, des antivirus. Donc l'éducation et la sensibilisation des collaborateurs au risque cyber restent les meilleurs moyens de les prévenir.
Et maintenant, si on prend le point de vue des citoyens, quels sont les gestes simples à adopter pour protéger son identité numérique au quotidien ?
Au quotidien, il va falloir favoriser l'usage des portefeuilles d'identité numérique qui permettent de prouver son identité sans transmettre des copies de documents à chaque fois. Mais d'une manière générale, il faut éviter de partager des informations personnelles inutilement en ligne. Il faut utiliser des mots de passe forts tant qu'on n'a pas encore tous de portefeuille numérique pour se connecter à tous les services. Il faut changer régulièrement ses mots de passe. Il faut s'assurer que nos appareils sont à jour et protégés avec des logiciels de sécurité. Mais en effet, dès lors qu'on va avoir des portefeuilles numériques d'identité sécurisés, on va grandement réduire les risques de fraude.
Alors les mots de passe forts, juste je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est très compliqué hein, de trouver à chaque fois des mots de passe forts et de s'en souvenir et de les avoir. On a tous plein de mots de passe partout. Est-ce que tu as un conseil, un tip, quelque chose pour chaque personne qui aujourd'hui a énormément de mots de passe ou ne sait pas comment faire ses mots de passe ?
Alors les portefeuilles d'identité numérique permettront de s'affranchir des mots de passe et on se connectera sur les sites avec son portefeuille. Le futur, en fait, c'est le futur qui vient du Web3, c'est Connect Wallet, à la place de saisir un login et un mot de passe. Mais en attendant cette révolution, mon meilleur conseil, c'est finalement d'utiliser un logiciel de gestion de mots de passe qui génère des mots de passe forts à votre place, qui les stocke de manière sécurisée, et qui vous permet d'aller les chercher pour les utiliser. Donc, en attendant, utilisons des logiciels de gestion de mots de passe. Et puis, adoptons tous très vite des portefeuilles d'identité numérique pour se connecter sur les sites.
Très bien, adoptons. Olivier, des conseils pour les citoyens ?
Alors, pour les citoyens aujourd'hui, et avant l'avènement des portefeuilles numériques qui permettront de s'identifier sans donner son identité, il y a une expérience très simple que vous pouvez faire simplement pour la prise de conscience. La prochaine fois que vous tombez sur un cookie wall, au lieu de cliquer sur « OK », pour matérialiser la quantité de données personnelles qui vont être transmises aux partenaires, eh bien vous cliquez sur « Manage » et vous allez voir apparaître la liste des partenaires à qui vos données personnelles, vos données de navigation et vos données comportementales vont être transmises aux partenaires. Et il n'est pas rare de trouver des cookie walls avec 5 à 10 000 partenaires qui vont récupérer toute l'information de votre navigation sur ce site Internet. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous référer au guide d'hygiène cyber qui est édité par l'ANSSI et par Cybermalveillance. N'hésitez pas à aller le consulter, à regarder et à appliquer les conseils qui sont donnés à l'intérieur.
Merci Olivier. Candice, peux-tu nous éclairer sur comment chez DocaPost, vous êtes véritablement moteur sur le concept d'identité numérique et comment vos actions ont un impact sur la société ?
Bonjour Marine, bonjour Hervé, ravi d'être là et d'être avec vous. Alors chez DocaPost, nous avons été précurseurs en identité numérique et on a joué un vrai rôle de pionnier. C'est-à-dire qu'on a montré finalement un petit peu la voie sur ce marché de l'identité numérique, puisque déjà nous avons été les premiers, il y a 4 ans, à avoir été certifiés par l'ANSSI, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, pour notre service, l'identité numérique La Poste. C'est donc 4 ans d'avance que nous avons sur le marché et ces 4 ans d'avance nous ont servi à évangéliser les administrations, les entreprises sur les risques de fraude, les risques d'usurpation d'identité et aussi d'évangéliser auprès des citoyens qui petit à petit, et d'ores et déjà, il y en a 4 millions qui l'utilisent comme hygiène numérique pour se connecter à l'ensemble de leurs services du quotidien. Donc on voit que l'identité numérique La Poste a été diffusée par nos chargés de clientèle et puis a été aussi proposée par l'ensemble des technologies que nous avons chez DocaPost. Nous avons été pionniers aussi puisque nous avons été la première lettre commandée électronique avec AR24 à utiliser des technologies de comparaison faciale pour vérifier l'identité des personnes. Aujourd'hui, grâce à cela, grâce à cette avance, nous venons d'être certifiés par l'ANSSI également sur ce dispositif dit preuve de vérification d'identité à distance. Et enfin, nous restons pionniers, toujours à la pointe de l'innovation, puisque nous avons intégré un certain nombre de technologies d'intelligence artificielle à notre plateforme ID360, et cela permet vraiment de rester à l'état de l'art de la menace, notamment sur la fraude et l'usurpation d'identité, puisque comme vous le savez, les escrocs les personnes se sophistiquent de plus en plus sur Internet, et à nous de faire évoluer en permanence nos plateformes et nos technologies pour contrer cette menace. Alors vous allez me dire, ces technos mises bout à bout, ça reste de la technologie, mais on voit qu'elles ont un effet et un impact immédiat sur la société et les citoyens au quotidien. On les protège déjà sur Internet, et notamment, comme on le disait, sur l'usurpation d'identité. Il faut voir, et notamment avec la crise sanitaire qui a eu lieu, il y a eu toute une vague de numérisation qui a eu lieu, qui s'est fait un peu à marche forcée, avec toutes les démarches qui étaient avant disponibles plutôt en papier, plutôt en guichet, qui se sont révélées accessibles, sur Internet. Donc ça a rendu les choses extrêmement plus simples, mais ça nous a tous aussi exposés de manière très très importante à des risques sur Internet et notamment de récupération de nos RIB, de nos informations d'identité, nos informations confidentielles. Et ça, nos solutions d'identité numérique, qu'elles soient réutilisables ou non, permettent vraiment d'y répondre. Et je pense que là, c'est une conscience maintenant collective qu'il est important de se protéger sur Internet. Et ça permet aussi, et ça c'est plus récent, c'est ce que nous avons travaillé sur cette fin d'année 2023, de contrôler des accès, et notamment pour protéger des populations en particulier, et je pense notamment aux jeunes. Nous avons travaillé sur des solutions d'identité numérique, de preuve de majorité. Aujourd'hui, pour accéder à des sites pour adultes et notamment les contenus pornographiques, il faut savoir qu'il suffit juste de cliquer sur un bouton « J'ai plus de 18 ans ». Une étude assez récente de l'ARCOM a montré qu'un jeune garçon de moins de 13 ans sur 2 accédait 1 heure par mois à du contenu pornographique, ce qui peut paraître quand même assez énorme. Et donc, il y a une conscience collective sur le fait qu'il faut contrôler ses accès et en même temps permettre à ceux qui ont droit d'y accéder d'aller sur Internet comme bon leur semble. Donc nous avons réussi, on peut le dire, le double défi du double anonymat, c'est-à-dire de protéger les internautes dans leur consommation d'Internet, quelle qu'elle soit, en même temps protéger nos enfants de contenus qui ne leur sont pas destinés. Et nous avons donc assemblé une solution de preuve de majorité juste à cet égard. Donc on voit finalement que chez DocaPost, l'identité numérique, c'est un vrai sujet de société qui permet d'y répondre avec des technologies et des vrais cas d'usage impactants pour le quotidien.
Merci Candice.
Merci.
Maintenant, Olivier va nous ouvrir les chakras de la réflexion. Olivier, c'est à toi.
Merci Marine. Bah, quelle perspective, hein. Imaginez un monde où l'identité serait unique, serait fiable et dont on n'aurait pas à craindre qu'elle fût utilisée comme les autres informations de notre vie privée à des fins malveillantes. Lourde mission pour notre icône du vodka martini, au shaker et pas à la cuillère, et quelles armes pour la mener. Et si on prend un peu de hauteur et qu'on revient dans l'histoire, l'identité et notre rapport à elle a beaucoup évolué au fil des siècles. Du moyen d'identification de la tribu de provenance d'un inconnu en le replaçant au centre d'une cartographie familiale commune, aux témoignages oraux accompagnés de signes distinctifs du XVIIe et XVIIIe siècle au sein du Royaume de France, avant d'arriver en 1720 au premier papier d'identité, sous forme de registres hôteliers, de lettres de naturalité, ouvrant la voie à l'un des plus importants, le passeport, mais qui était à l'époque destiné aux marchandises. Alors en France, la première carte d'identité est née en 1921 par le truchement du préfet de la Seine, engendrant bien malgré lui la naissance des premiers faussaires. Mais homo numericus oblige, exit le papier est mort, vive le papier, pourrait-on entonner en guise de bienvenue à l'avènement de sa majesté l'identité numérique et sa cohorte de déclinaisons. Une révolution pour les faussaires, devenue hacker et mondialisation oblige, devenue phénomène planétaire dont il faut se prémunir. En dégainant la blockchain, notre agence Smoking apporte un moyen efficace de lutte contre la fraude, car le point est bien celui de ne pas être vulnérable dans le monde numérique. Mais s'identifier dans le monde numérique remet aussi en cause une philosophie contemporaine de l'anonymat, d'Internet, on en a parlé, soulevant des cris d'orfraie des défenseurs des libertés, dont l'absence d'identité permet une liberté d'expression salvatrice tout en offrant une autoroute royale aux trolls de tout poil. La technologie blockchain offre une réponse à ce paradoxe, s'identifier sans dévoiler son identité. MoneyPenny serait sans doute une fois de plus subjuguée, mais au fond nous pouvons aussi poser une question vieille de plusieurs siècles, éclairée par les nouveaux atours du numérique. Qu'est-ce que l'identité? Vous avez 4 heures.
Merci à tous les trois d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue. Hervé, j'ai été ravie de rencontrer le James Bond de l'identité numérique. Belle journée à vous. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Inno. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance Inno sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmi Trends. À bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer.